Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse, car dans la Bible, tout a son importance. Continuons donc de tourner les pages bibliques et arrêtons-nous aujourd'hui sur un visage encore très jeune, celui d'un jeune garçon de l'entourage de Moïse, qui est à son service, mais aussi qui se présente pour lui comme une sorte d'apprenti. Il s'agit d'un certain Josué, selon nos traductions françaises de la Bible. En fait, son nom hébreu est Yahoshua, ce qui signifie littéralement « Dieu sauve ». Nom qui semble bien être le même que celui qui sera donné plus tard au fils de Marie à Nazareth, Yahoshua, que l'on décidera de traduire par Jésus pour bien le différencier sans doute de ce Josué, apprenti de Moïse. En fait, ce nom de Yahoshua est assez fréquent à cette époque. On voit dans la Bible plusieurs personnages qui portent ce même nom. Il y a un Josué, fils de Yosadak, un grand prêtre. Il y a un Josué de Beth-Shemesh qui apparaît dans le livre de Samuel, un Josué chef d'une ville dans le livre des rois, bref, un nom somme toute habituel, bien qu'il laisse entrevoir un destin d'homme important. On voit donc apparaître ce jeune Josué dès le livre de l'Exode, où il accomplit diverses tâches pour Moïse. Par exemple, il rassemble les hommes pour le combat contre des Amalécites. Il accompagne Moïse jusqu'à la montagne du Sinaï pour la rencontre de Dieu. On le voit aussi officier dans la tente de la rencontre, là où Moïse parle avec Dieu. Je vous lis ce petit extrait donc, de l'Exode, chapitre 33. « Quand Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Elle se tenait à l'entrée de la tente et parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée dressée à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, puis chacun se prosternait à l'entrée de la tente. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on se parle d'homme à homme. Puis Moïse revenait vers le camp, tandis que son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. » Voilà, une sorte de sacristain, je ne sais pas. Nous découvrons donc là, en tout cas, le nom du père de Josué. Il s'appelait Noun, ce qui signifie poisson. Et il fait partie de la tribu d'Éphraïm. Mais d'après le livre des Nombres, ensuite, au chapitre 13, verset 16, à l'origine, Josué ne s'appelait pas Yahoshua, mais simplement Hoshea, c'est-à-dire Osée, qu'on traduit par « salut », simplement « le salut ». Mais Moïse lui-même a décidé de changer son nom en « Yahoshua », ce qui précise « Dieu sauve », « Yé » étant l'abréviation du nom divin. Et alors, cela indique que dès le début, Moïse destinait son petit apprenti à devenir un médiateur des œuvres de Dieu. Au chapitre 14 du livre des Nombres, nous voyons qu'il fera partie des hommes que Moïse envoie en éclaireur dans le pays de Canaan pour découvrir quelles sont les richesses, mais aussi les embûches qui les attendent à leur entrée dans ce pays que Dieu leur a donné. Il est vraiment étonnant, en fait, qu'ils soient appelés par Dieu à occuper un territoire qui est déjà habité. Et on peut comprendre même que certains des Hébreux vont refuser d'aller combattre pour s'y installer, pour ne pas risquer leur vie. Josué, par contre, va faire partie de ceux qui vont tout faire pour convaincre qu'il ne faut pas refuser d'affronter les difficultés et aller se battre courageusement contre des Cananéens, car Dieu a promis la victoire. Je vous lis un petit passage du chapitre 14 du livre des Nombres. C'est Josué qui parle. « Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur, Ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. La protection de leur Dieu s'est éloignée d'eux, alors que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. Voilà, nous voyons là une première manifestation de la personnalité profonde de Josué. C'est un homme courageux et entreprenant, hein, au caractère énergique dont les qualités vont très vite être nécessaires pour gérer cette période difficile. Un peu plus loin dans le livre des Nombres, nous voyons Moïse qui va littéralement craquer après un épisode de révolte du peuple, Massa et Meriba, quand Dieu lui annonce que ni lui ni Aaron ne pourront entrer en terre promise avec leur peuple, mais qu'ils vont mourir après avoir simplement contemplé de loin cette terre promise. Et voici alors la prière que Moïse, un peu inquiet, adresse au Seigneur. « Que le Seigneur Dieu, qui dispose du souffle de toute créature, désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et rentrera devant eux. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger. » Et donc Dieu va répondre à Moïse, lui disant « Prends Josué, fils de Noun, c'est un homme inspiré, tu lui imposeras les mains, tu le présenteras au prêtre Éléazar ainsi qu'à toute la communauté et tu l'établiras dans sa charge devant eux. Tu lui donneras une part de ta puissance afin que toute la communauté des fils d'Israël lui obéisse. » Voilà, nous sommes donc devant un moment crucial. Moïse est arrivé au terme de sa mission et va passer le relais à un successeur. Ce sera donc Josué qui est à son service depuis longtemps, mais qui à ce moment-là va devoir déployer toutes ses capacités selon les nouveaux besoins de l'histoire d'Israël, qui sont d'abord, il faut le dire, des qualités de chef de guerre.
Alléluia, 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 alléluia.
Prenons la lecture du texte biblique, cette fois à la fin du livre du Deutéronome, qui, comme vous savez, reprend en détail toute l'histoire de Moïse. Et nous lisons au chapitre 31 la passation de pouvoir à Josué. Moïse le présente au peuple en disant ceci. « J'ai aujourd'hui 120 ans et je ne suis plus capable de tenir ma place. » Et le Seigneur m'a dit « Tu ne passeras pas ce Jourdain que voici. » Le Seigneur ton Dieu va passer devant toi, c'est lui qui exterminera les nations de devant toi et les possédera, et c'est Josué qui va passer devant toi, comme le Seigneur te l'a dit. Donc un peu plus loin, Moïse appelle Josué devant tout Israël et lui dit « Sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui leur feras hériter de ce pays. C'est le Seigneur qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec toi, il ne te délaissera pas, ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne te laisse pas abattre. » Voilà, alors bien logiquement, quand le livre du Deutéronome se termine, avec ces dernières paroles de Moïse et sa mort sur le mont Nebo, nous lisons, au dernier verset du chapitre, « Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Et les fils d'Israël l'écoutèrent pour agir suivant les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Mais plus jamais ne s'est levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur connaissait face à face. » Voilà donc Josué établi comme nouveau chef à la tête du peuple hébreu, mais toutefois avec quelques bémols. Il n'est pas tout à fait de la même nature spirituelle que Moïse. Il inaugure toute une période difficile pour conquérir la terre de Canaan. Et il semble bien qu'il n'arrivera pas au bout de son programme avant de mourir lui-même, car il faudra encore plusieurs siècles de combats contre des tribus hostiles dans ces territoires, qui ne seront vraiment, semble-t-il, pacifiées et unifiées qu'avec le règne du roi David. Mais pour le moment, notre lecture biblique nous mène au livre de Josué, qui fait donc suite au Deutéronome et qui raconte l'histoire de l'entrée en terre promise sous la direction de Josué. Le début du livre nous montre que maintenant Dieu va s'adresser directement à Josué, et voici ses premières paroles. « Maintenant donc, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve Euphrate, et tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer. » Remarquons, le territoire promis ici est vraiment gigantesque, hein, il dépasse de beaucoup ce que nous connaissons d'aujourd'hui comme terre promise. Nous avons une description qui rejoint plutôt celle faite à Abraham au chapitre 15 de la Genèse, où il est dit, verset 18, « À ta descendance, j'ai donné ce pays du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate. » Donc à Abraham, Dieu promet un territoire qui va du Nil jusqu'à l'Euphrate, ce qui est un territoire gigantesque. Alors, nous devons voir ici une utopie qui présente plutôt un idéal de grandeur politique qu'une réalité territoriale. En tout cas, il est possible que Josué ait eu à l'esprit une telle immense conquête à entreprendre. D'autant plus que Dieu va l'assurer de sa protection et l'encourager. Lisons encore des paroles que Dieu adresse à Josué. « Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te ferai pas défaut, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux, et veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Le livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit, car alors tu rendras tes voies prospères et tu réussiras. Ne te l'ai-je pas prescrit ? Sois fort et courageux, ne tremble pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Alors, je suppose que vous avez remarqué la formule qui revient trois fois dans ces paroles de Dieu à Josué, « Sois fort et courageux ». Cela nous décrit l'essentiel de la personnalité qui sera nécessaire à Josué pour faire face à cette nouvelle période de sa vie. Mais il ne s'agira pas que de combats et d'affrontements militaires. Il faudra aussi que Josué soit un vrai dirigeant, avec suffisamment d'autorité et de crédibilité pour que le peuple continue de croire au Dieu de Moïse et surtout obéisse à sa loi et reste fidèle à l'Alliance. L'enjeu n'est donc pas simple si on se souvient des difficultés que Moïse lui-même avait rencontrées pendant l'Exode. Et enfin, pour Josué, il semble quand même que tout va plutôt bien dès le début. Le peuple accepte bien son autorité, obéit volontiers à ce qu'il commande parce que l'ombre de Moïse reste encore présente et que la loi a trouvé sa place dans leur cœur. Si nous lisons à la fin du premier chapitre donc du livre de Josué, les promesses du peuple. « Tout ce que tu nous as prescrit, nous le ferons. Partout où tu nous enverras, nous irons. Comme nous avons obéi en tout à Moïse, nous t'obéirons. Oui, Le Seigneur ton Dieu sera avec toi comme il était avec Moïse. Alors, quiconque sera rebelle à ta voix et n'obéira pas à tes paroles en tout ce que tu auras commandé, il sera mis à mort. Oui, sois fort et courageux. Voilà, nous avons là un peuple qui confirme et fait sienne l'exhortation que Dieu a faite à Josué, sois fort et courageux. Le voilà soutenu, encouragé par tous pour accomplir le redoutable programme de sa nouvelle vie. Continuons de regarder le visage que Josué révèle à partir du moment où il pénètre dans le territoire de Canaan. Après une première exploration, où il reçoit l'aide et la collaboration de quelques autochtones, Josué organise le peuple pour la traversée du Jourdain, avec à leur tête l'Arche d'Alliance. C'est alors que Dieu vient lui dire « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël pour qu'on sache bien que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Et donc, nous voyons que Dieu accompagne les prêtres qui portent l'Arche d'Alliance en tête du cortège des Hébreux en marche vers le Jourdain. Et aussitôt qu'il touche l'eau, un miracle se produit. Lisons. Alors les eaux qui descendent d'un mont s'arrêtèrent. Elles se dressèrent en une seule masse. Et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer du sel, furent complètement coupées. Et le peuple traversa en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur s'arrêtèrent sur la terre sèche au milieu du Jourdain, immobiles, tandis que tout Israël traversait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Alors, toute ressemblance avec la traversée de la mer Rouge à la sortie d'Égypte n'est ici pas du tout fortuite. Il s'agit vraiment du renouvellement du miracle de la traversée de l'eau opérée d'abord par Moïse, mais miracle qui donne ici à Josué une importance semblable à celle de Moïse. Dieu lui demandera ensuite de construire là un mémorial. On y déposa donc 12 pierres en guise de témoignage pour la postérité. Ce lieu s'appelle Gilgal, ce qui signifie le cercle. Ensuite, le chapitre 4 du livre de Josué raconte longuement tout cet épisode et se termine par ces mots. « Afin que tous les peuples de la terre sachent comme est forte la main du Seigneur, afin que vous craigniez le Seigneur votre Dieu tous les jours. » Voilà, donc l'aura de Josué s'en trouve encore sérieusement renforcée, et heureusement pour lui parce que les tâches lourdes l'attendent encore. La première, étonnamment, sera de circoncire tous ceux qui n'avaient pas pu l'être dans le désert. Et une fois tout le monde en règle avec le Seigneur, il doit organiser la première célébration de la Pâque sur la terre de Canaan, près de Jéricho. Donc, il est autant liturge et officiant. Alors, lui apparut, eh bien, l'archange Michel, le chef des armées célestes, qui vient le préparer à prendre la ville de Jéricho. Alors, avec l'aide de l'archange Saint-Michel, la ville tomba autant par des rites liturgiques que par des combats. et l'effet sur le reste de la population fut immédiat. On se mit à craindre ces Hébreux partout, parce que leur Dieu puissant les protégeait. Et pourtant, le peuple de Dieu fit de nouveau des péchés en désobéissant à la loi. Et Josué fut aussi obligé d'apprendre à punir, de purifier, de remettre de l'ordre, et parfois très violemment. Et en même temps, il continuait de mener une guerre de conquête pour faire avancer son peuple dans le pays, faisant tomber des villes avec plus ou moins de massacres selon la résistance des habitants. Mais toujours avec l'aide de Dieu, ce qui donne à cette conquête, en fait, un idéal de guerre sainte. On ne sait évidemment pas quelle est la part fantasmée de ces récits guerriers, car les archéologues aujourd'hui ne confirment pas. Il y a peut-être beaucoup de propagande ici pour affirmer une puissance autant spirituelle que matérielle. On voit d'ailleurs Josué construire aussi un grand sanctuaire sur le mont Ébal pour y inscrire une copie de la loi et venir y offrir des sacrifices. Ces nouveaux lieux saints montrent bien que la conquête de la terre de Canaan a d'abord pour but d'y installer le culte du Dieu d'Israël. Et certaines tribus locales vont d'ailleurs se laisser convertir pacifiquement et faire alliance avec Israël. Mais malgré tout, les opposants restent nombreux et on peut lire des épisodes assez cruels qui nous montrent alors un Josué inflexible et dur. Je prends un exemple au chapitre 10, dans un combat où cinq rois avaient pris la fuite et s'étaient cachés dans une caverne. Josué les débusqua, il frappa les cinq rois, les mit à mort et les fit pendre à cinq arbres où ils restèrent pendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commanda de les descendre des arbres et de les jeter dans la grotte où ils s'étaient cachés. Voilà, nous sommes loin de la tendresse évangélique. Mais le rôle de Josué était de conquérir un territoire habité par des tribus païennes. Pas vraiment d'accord, ces tribus, pour les accueillir. Et Josué assuma sa fonction militaire avec bravoure. Et les villes tombèrent les unes après les autres. Tout le chapitre 12, donc qui termine la première moitié du livre de Josué, nous décrit en fait, 31 royaumes, petits royaumes locaux dont Josué avait réussi à prendre le contrôle. Et pourtant, la deuxième moitié du livre de Josué, chapitre 13, nous dit ceci. Josué était devenu vieux et avancé en âge. Lorsque le Seigneur lui dit, « Tu es vieux et avancé en âge, or le reste du pays dont il faut encore prendre possession » est considérable. Mais je le déposséderai moi-même devant les fils d'Israël. Tu dois seulement assigner un héritage à Israël, comme je te le prescris. Maintenant, partage ce pays pour qu'il soit l'héritage. Voilà. Une grande partie du territoire restait donc encore à vaincre, et la paix n'était toujours pas assurée. Mais il y avait déjà suffisamment d'espace pour que Dieu dise d'installer 9 des tribus d'Israël, parce que rappelons-nous que Moïse avait déjà donné à 2 tribus, celle de Ruben et de Gad, des territoires au-delà du Jourdain, et aussi que la tribu des Lévites n'aura pas de territoire en propre, sauf certaines villes tirées au sort sur tout le territoire. Aussi maintenant, Josué est devenu vieux, cesse les combats pour devenir le magistrat en charge de la répartition des terres. Tout ce partage se fera par tirage au sort, selon la prescription de Moïse. Cela évitera certainement des contestations. Et les Hébreux vont alors s'installer et trouver un peu de repos. Josué, alors sentant arriver la fin de sa vie, commence à préparer son testament. Nous lisons ça au chapitre 23. Je vous lis quelques versets. Josué, devenu vieux et avancé en âge, convoqua tout Israël, ses anciens, ses juges et ses fonctionnaires, et leur dit « Vous avez vu vous-même ce que le Seigneur votre Dieu a fait contre toutes ces nations à cause de vous, car c'est le Seigneur qui a combattu pour vous. Votre Dieu lui-même les repousse à cause de vous et les dépossède. Soyez donc très forts et veillez à agir selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. N'entrez pas chez ces nations qui subsistent encore auprès de vous. Ne faites pas mémoire du nom de leur Dieu. Ne vous prosternez pas devant eux. Si vous transgressez l'alliance du Seigneur, votre Dieu, la colère du Seigneur s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez rapidement de ce bon pays qu'il vous a donné. » Et encore plus loin, au chapitre 24, « Maintenant donc, écartez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur Dieu d'Israël. » Voilà, après avoir transmis à son peuple toutes ces dernières recommandations, qui sont vraiment d'ordre religieux, et que le peuple lui ait promis fidélité, Josué s'éteint alors à l'âge de 110 ans, avec la satisfaction du devoir accompli, et on l'ensevelit dans les montagnes d'Éphraïm, dans sa tribu. Et même si sa vie fut en grande partie celle d'un militaire, guerrier au service de Dieu, la tradition chrétienne a souvent fait le rapprochement entre ce Yehoshua, Josué, fils de Noun, et le Yehoshua, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, parce que lui aussi s'est battu pour pouvoir conduire le peuple de ses fidèles vers une autre terre promise, celle du ciel, le royaume de Dieu. Le combat de Josué est un combat spirituel, celui de Jésus aussi, bien sûr, mais finalement, au-delà des affrontements militaires, on peut dire que celui de Josué fut un combat théologique pour parvenir à transmettre fidèlement la foi au Dieu unique, le Père de Jésus-Christ. À présent, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt pour découvrir un autre visage de la Bible.